Le journal, présenté par Alexandra Duboucheron.
Bonjour. Fiasco au G7, un tweet de Donald Trump torpille l'accord final. On est comme une tirelire que tout le monde vole, assure le président américain, vous l'entendrez. Tension aussi entre la Turquie et la Grèce dans l'affaire des militaires turcs. Ankara fait du chantage aux migrants et rompt unilatéralement son accord avec Athènes. Les Italiens appelés aux urnes aujourd'hui, élection municipale, mais 43 communes ne devraient pas voter à cause de la mafia qui rôde. Précision à suivre. Dans ce journal aussi, les agriculteurs et les éleveurs vont bloquer les raffineries et dépôts de carburant en France pendant 3 jours. Et puis ce n'est pas une lettre au vitriol, mais un encouragement. Olivier Véran, député LREM de l'Isère, réagit au message adressé par 3 économistes proches d'Emmanuel Macron et qui estiment que la politique actuelle déséquilibre et déséquilibrée à droite. Donald Trump a donc sabordé le G7 cette nuit. Il l'a fait d'un coup de tweet depuis Air Force One, ordonnant à ses représentants restés sur place de retirer le sceau américain du communiqué final. Communiqué en 28 points péniblement négocié durant ce sommet organisé au Québec et qu'il avait lui-même approuvé quelques heures plus tôt. Même si ce document n'a aucune portée normative, il reste un symbole. Et le symbole ce matin, Isabelle Labeyrie, c'est plus que jamais la guerre commerciale.
Le texte rappelle l'attachement de ses signataires aux règles collectives du commerce mondial. Il acte noir sur blanc leur rejet du protectionnisme et propose de moderniser l'OMC. Dans un premier temps, ce compromis arraché après des heures de négociations laborieuses avait pourtant emporté l'adhésion des Américains. Emmanuel Macron saluait alors le succès de l'engagement sans faille des Européens.
Je ne crois pas au miracle. Je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pression et des bonnes discussions qu'on a pu parvenir à ce résultat. Le président Trump a vu qu'il y avait un front uni. Et donc, il y a eu une volonté américaine, en voyant un front uni, de ne pas être isolé.
Mais pour Donald Trump, signer un texte ne vaut pas engagement définitif. Ses partenaires viennent d'en faire l'expérience. Son discours, d'ailleurs, à la fin du sommet, n'était pas moins offensif.
On ne peut pas nous imposer des taxes sur ce qu'on exporte et nous empêcher de taxer les autres. Ça va changer. Les droits de douane vont baisser parce qu'on est comme une tirelire que tout le monde vole. Ça doit cesser.
Au fond, donc, rien n'est réglé et c'est bien le président américain qui continue d'imposer son tempo. La France, qui accueillera le G7 l'an prochain à Biarritz, hérite d'un dossier bien mal ficelé.
Isabelle Labeyrie, envoyée spéciale pour France Culture au Québec et puis aux Européens qui menacent à leur tour Donald Trump de droits de douane. Le président américain promet des représailles en taxant par exemple les importations de voitures. En clair, c'est l'escalade. Mais le G7, ce n'est pas qu'un sommet du commerce. Le groupe des 7 s'est engagé à apporter près de 3 milliards de dollars pour l'accès à l'éducation des femmes et des filles en situation vulnérable comme les réfugiés. Kim Jong-un vient d'arriver à Singapour. Le dirigeant nord-coréen vient participer à un sommet historique avec le président américain qui lui arrivera vers 15h heure locale. Ils doivent se rencontrer mardi sur la petite île de Sentosa sur la côte sud de Singapour. Le dirigeant nord-coréen sera reçu tout à l'heure par le premier ministre singapourien. Direction Athènes à présent, les relations sont au plus mal entre la Grèce et la Turquie. Au cœur des tensions, un groupe de militaires turcs en fuite, réfugiés en Grèce et accusés par Ankara d'être liés au coup d'État avorté de 2016 et dont 4 ont été libérés par Athènes. Les précisions d'Angélique Kourounis à Athènes pour France Culture.
Il est impensable que nous acceptions ce que le gouvernement grec a fait avec les 8 militaires, a tonné hier le premier ministre turc Yildirim Binali, 24 heures à peine après que le ministre turc des Affaires étrangères ait qualifié d'inacceptable et contraire au droit international la libération de 4 militaires turcs sur les 8 qui avaient fui et demandé en Grèce l'asile politique. Du coup, la riposte ne s'est pas fait attendre. Plus aucun migrant étranger entré illégalement en Grèce via la Turquie ne sera réadmis en Turquie, ce qui risque d'aggraver un peu plus la crise migratoire qui sévit. Selon Athènes, 1209 étrangers ont été expulsés de Grèce vers la Turquie ces 2 dernières années au terme de l'accord bilatéral signé entre les 2 pays en 2002. La crise risque de prendre de l'ampleur car il y a de fortes chances que l'asile politique soit accordé aux militaires turcs encore en résidence surveillée. La justice grecque estimant que ces hommes ne bénéficieront pas en Turquie d'un procès équitable et qu'ils risquent même d'y être torturés alors que leur famille subit déjà de gros tracas administratifs. Selon leurs avocats, les 8 souhaitent quitter le pays dès que leur statut sera clarifié, car ils redoutent d'y être enlevés par les services turcs, comme cela s'est produit au Kosovo pour d'autres réfugiés turcs. Athènes, de son côté, a mis en garde Ankara de ne pas s'aventurer sur ce terrain et rappelle qu'en Grèce, la justice est indépendante du gouvernement. Ceci expliquant cela, la tension est montée cette semaine d'un cran entre la Grèce et la Turquie. Des navires militaires ont même pour plusieurs heures fait leur apparition en mer Égée, alors que les violations de l'espace aérien grec se sont, elles, multipliées.
Angélique Corounis, correspondante de France Culture à Athènes. En Italie, 10% des communes doivent renouveler aujourd'hui leur conseil municipal et élire leur nouveau maire. Une élection test, comme on dit, après les derniers succès de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Mais le test ne marche pas vraiment par endroit. 45 communes italiennes n'ont pas de maire actuellement à leur tête. Notamment en Calabre, les conseils municipaux ont été dissous en raison d'une infiltration mafieuse. Reportage de Mathilde Imberti à San Luca, berceau des clans des plus redoutables de la N'Drangheta, la mafia calabraise.
Pas le moindre frémissement électoral à San Luca. 4000 habitants, dont une dizaine de familles mafieuses. Le bourg accroché aux flancs montagneux et sauvages de l'Apremont en Calabre ne vote plus depuis 2013. Et la dissolution du conseil municipal pour infiltration mafieuse. Cette année encore, aucun candidat ne se présente, car la loi est devenue très stricte, explique Nicola Gratteri, le procureur chargé des plus gros dossiers mafieux.
Dans ces communes-là, il est vain de vouloir entrer en politique, car si tu montes une liste, il y figurera nécessairement à un moment ou à un autre le nom d'un lointain parent d'un dranguettiste. Six mois ou un an plus tard, le conseil municipal sera dissous. Même les gens honnêtes risquent de se voir imposer par la Ndrangheta un nom ou deux pas propres. Il faut savoir que la Ndrangheta vote et fait voter, et elle fait en sorte de ne jamais se retrouver dans l'opposition.
Faute de maire, San Luca est géré par un commissaire qui, au dire des habitants, a réintroduit la légalité. L'eau est payée par tous, les impôts locaux aussi, le cimetière a été rénové, un terrain sportif a vu le jour. Du coup, on reconnaît quelques mérites à cette mise sous tutelle.
On n'a rien contre, on ne vote plus, c'est comme ça. C'est plus simple avec un commissaire.
Comme San Luca, 43 communes italiennes, la plupart en Calabre, ne voteront pas ce dimanche, faute de candidats.
Mathilde Imberti, correspondante en Italie pour France Culture. 9h07 sur France Culture. En France, la FNSEA et les jeunes agriculteurs se préparent pour une nuit de blocage. Ils vont prendre d'assaut 14 raffineries et dépôts de carburant un peu partout dans le pays jusqu'à mercredi pour dénoncer la concurrence étrangère, les traités internationaux, bref, le mépris du gouvernement, disent-ils. Alors Guillaume Gaven, c'est une goutte d'huile qui a fait déborder le vase, si l'on peut dire.
C'est l'annonce de trop. L'autorisation d'importer 300 000 tonnes d'huile de palme pour la raffinerie de La Mède, près de Marseille. Pour sauver 250 emplois chez Total, disent les agriculteurs, on va sacrifier la filière française des biocarburants. Le colza fait vivre 20 000 personnes. Damien Greffin est le président de la FNSEA en Ile-de-France.
Si Total a intérêt à le faire et qu'elle ne le fait pas à partir de colza qu'elle peut trouver sur son territoire, c'est bien évidemment qu'elle l'achète moins cher et que c'est économiquement plus rentable pour elle. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut faire le choix. Soit on fait le choix de maintenir une agriculture en France, soit on fait le choix de l'agro-industrie ou des multinationales.
Il y a l'huile, mais aussi le vin, la viande, les traités économiques avec l'Amérique du Sud, le Canada, autant de concurrence étrangère déloyale et pas de réponse du gouvernement.
Aujourd'hui, un agriculteur dans son coin, il est méprisé par ce gouvernement. Donc si à un moment donné, on n'a pas une action, on n'est pas entendu. Donc l'idée de s'en prendre aux raffineries ou aux dépôts de carburant, c'est stratégique pour la France. Donc c'est effectivement un rapport de force qu'on instaure avec Emmanuel Macron.
Un rapport de force pour renouer le dialogue. Au ministère de l'Agriculture, on ne comprend pas. Stéphane Travert était encore en fin de semaine au congrès des jeunes agriculteurs. Il a déjeuner avec les présidents des jeunes agriculteurs et de la FNSEA.
Guillaume Gaven pour France Culture. Hier, le journal Le Monde relevait une note confidentielle adressée à l'Élysée par trois économistes, dont Jean Pisani-Ferry, et réclamant le rééquilibrage de la politique du gouvernement en faveur des moins favorisés. Ces trois signataires sont des proches d'Emmanuel Macron. Ils ont même inspiré son programme électoral. On a demandé au député LREM Olivier Véran ce qu'il en pensait. Il est rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et pour lui, il n'y a pas de déséquilibre, mais surtout un manque de communication.
C'est pas du tout une lettre au vitriol, c'est pas, je ne lis pas là-dedans une critique de la politique globale menée par le président de la République. C'est plutôt un encouragement à faire. Une note qui s'inscrit aussi dans un contexte où on entend parfois une critique sur un manque de politique sociale, etc. Il y a une sociale qui est très claire, mais il faut qu'on fasse preuve de beaucoup de pédagogie. Le sens de la réforme sociale qui doit être conduite dans notre pays, c'est de se dire quelle est l'efficacité aujourd'hui de notre politique sociale? Pourquoi est-ce qu'il y a encore un enfant sur cinq qui vit sous le seuil de pauvreté? Pourquoi est-ce qu'il y a encore plusieurs millions de chômeurs? C'est ces questions-là qu'on se pose pour engager des réformes profondes. Et il y a des réformes qui ont été annoncées pendant la campagne, comme l'idée de simplifier le paysage des aides sociales. Et donc l'idée, c'est d'essayer de simplifier les choses, d'aller vers une forme de versement unique pour les Français, et de faire en sorte surtout que ce versement soit accompagné d'une vraie politique de retour à l'emploi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est puissamment social, parce que la première des solidarités, finalement, c'est l'emploi.
Olivier Véran, député La République En Marche de l'Isère, joint par téléphone par Thomas Schoner. La météo, un ciel chaotique dans une grande moitié nord et sud-ouest du pays, des éclaircies près de la Méditerranée, les températures entre 17 et 31 degrés.